Bonjour Mortuary, comment allez-vous?
Très bien, bonjour à vous.
Donc nous sommes ici au Muscadès.
Yes, c'est
ça. La 22e édition du festival. Donc vous êtes déjà produit ici au Muscadès.
Oui.
Il y a quelques années.
En 2019
en
précisément.
En 2019, donc ouais. Juste avant le Covid quoi. Et donc vous revenez ici en 2024. Mmh. Déjà 5 ans. Mmh. Donc
ouais,
le temps passe
ça
vite.
Passe, hein.
Ouais. Donc vous officiez sur la scène extrême, metal extrême, death metal, déjà depuis une trentaine d'années. Donc vous faites partie des vétérans en fait, de la scène extrême française.
Oui.
Et vous venez du Grand Est.
Du Grand Est.
Du Grand Est.
Et principalement de Nancy.
De Nancy.
Ouais, le groupe est né en 89, en mars 89 officiellement, en 88, en 1988, hein, faut que je précise, parce qu'après on peut confondre en deux... Dans une quarantaine d'années, on pourra confondre.
Un mois après, quoi.
Un mois après. Oui, donc on avait commencé en 88 avec Jean-Noël et puis Gilles, qui est maintenant dans Deep Rave. Et après, on a eu le line-up des premières démos à partir de mars 89 avec l'arrivée de Jean-Paul et Guy, voilà, avec qui on a fait trois démos. Voilà. Ça, c'était les balbutiements de Mortuary, en fait.
Et si ici, dans l'Ouest, on a un terreau fertile, en fait, surtout au festival, en fait, ici on est au Muscadès, à Valette, à quelques kilomètres d'ici, il y a un festival.
Un petit festival entre copains.
Voilà. T'as la grand-messe du métal en France. Dans l'Ouest, il y a beaucoup de concerts, beaucoup de festivals, mais dans le Grand Est, il y a beaucoup de groupes de death metal et de grindcore. Comment vous expliquez ça, que dans votre région, en fait, ce soit un terreau aussi fertile en fait, au death et au grindcore?
En fait, oui, c'est vrai que tu as raison, il y a beaucoup de groupes et encore pas mal de jeunes groupes qui arrivent là, qui se forment régulièrement. Et,
ça te fait après, d'être proche de l'Allemagne peut-être ou...
Peut-être. Après, on a des zones... alors je ne sais pas si c'est dû aussi à la situation sociale où c'est un peu pauvre dans l'Est. On était sur des mines qui ont fermé. Peut-être que les gens ont peut-être un ressenti, un peu comme ce qui s'était passé en Allemagne avec la vallée de la Ruhr où il y avait des groupes comme Creator, Destruction. Peut-être qu'il y a eu le thrash metal qui est né dans cette zone-là en Allemagne. Et dans l'Est de la France, effectivement, il y a une scène très, très prolifique. Mais alors, paradoxalement, on a peu d'endroits pour jouer. On a beaucoup moins d'endroits que l'on avait au début. Si on se met 35 ans en arrière, il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait jouer. Et là, on a perdu quasiment 50 à 70% des lieux de salles, quoi, à part des endroits mythiques comme chez Paulette. Mais là, c'est pas très, très métal. On a la musique actuelle, là, la salle à Nancy,
l'autre canal,
où on a joué avec Merciless il y a 2 ans. C'est vraiment...
Après, il y a plus des bars-concerts.
Il y a des bars-concerts, si avec des petites capacités où on peut faire tenir 100 personnes.
Maximum, quoi.
60 à 100 personnes maximum.
C'est ça.
Et nous, on ne peut plus faire des salles comme ça, parce que le problème, c'est que... d'un point de vue visibilité, pour nous, c'est plus trop intéressant parce que c'est des endroits où on a joué plusieurs fois déjà. Moi, je parle de la Lorraine. Et nous, quand on joue, c'est plutôt dans des festivals où on va chercher plutôt 300, 400, 500 personnes quand c'est possible. Ce soir.
Comme ici,
voilà. Pour nous, c'est plus intéressant. Ouais. Et puis pour le public aussi, parce que ça centralise plusieurs groupes en même temps. Et donc, en même temps, les gens, ils voient peut-être 3-4 groupes préférés à eux en une soirée sur peut-être un line-up de 10 groupes de la soirée. Et donc, après, des petites salles, effectivement, sur Nancy et autour de Nancy, dans le Grand Est, il y en a. Il y en a, mais c'est vraiment des petites salles, comme dit Joe, quoi, 50 à 100 personnes.
Peut-être plus monter vers Strasbourg aussi, vous avez encore
Strasbourg,
certaines salles.
Ouais. Il y a la laiterie.
La laiterie, t'as aussi Mulhouse aussi.
Il y a Mulhouse.
Effectivement, t'as le Noumatrouf.
Il y a le Noumatrouf. À Colmar, il y a le Grienne aussi, où il y a pas mal de concerts, des festivals aussi en automne.
Et bien 200 km de Nancy, 150 km de Nancy, quoi.
Mais c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de cette dimension de concert, d'accueil groupe. Alors, je sais pas.
Même à Metz, plus rien du tout.
Ouais, il n'y a plus rien.
C'est depuis le Covid ou ça remonte
Progressivement.
Progressivement, en fait.
Une quinzaine d'années, à peu près.
Ce qui est dommage, c'est que vous avez beaucoup de lieux pour jouer. Alors, peut-être moins de groupes, je sais pas. Hein, je sais pas quel est. Il y a quand même pas mal de groupes qu'on connaît. Et nous, on a beaucoup de groupes et peu de lieux pour jouer. Donc, c'est ça. Parce que c'est vrai, quand on regarde un petit peu sur certains sites France Metal Asso qui référencent tous les concerts.
Le, Kermit, ouais.
Le côté de la France à l'ouest, c'est blindé. Il y a des coins partout pour jouer. Maintenant, on avait tourné avec Mortuary en 2019,
hein, c'était ça. 2020.
Janvier 2020. Janvier 2020, on avait fait une tournée en France. On avait joué à Rennes, on avait joué à Nantes, on avait joué, je sais plus où.
À Lyon,
à
Fréjus, Toulouse.
Ouais. On avait joué à Caen ou au Web Camino.
C'est ça.
À Caen, c'était vraiment un super accueil. Et donc, effectivement, alors le Covid, je ne sais pas si ça a joué beaucoup. À mon avis, ça a eu un impact quand même sur pas mal de petites structures. Les grosses structures, parce que bon, ils ont fermé. Après, les subventions viennent des mairies, des affaires culturelles, donc ils arrivent à vivre. Après, il y a moins l'argent. Après,
la musique. Il y a de moins en moins d'argent pour la culture.
Et puis, le gros
problème, c'est que... Et les gens se sont recentrés sur des gros festivals. C'est vrai qu'ils préfèrent peut-être plus, davantage, faire 3 jours à fond où ils vont pouvoir avoir des tas de groupes.
Donc, le Hellfest, complet, toujours, au bout de... Moi, j'ai jamais réussi à avoir de place au Hellfest. Alors, je suis accrédité
Oui, heureusement, vous faites partie, vous...
Je me suis toujours connectée sur la billetterie en ligne, mais j'ai jamais rien eu.
Si tu te lèves à 2h du matin, tu te connectes, de toute façon, t'es pas sûr de l'avoir, quoi, tellement ça va vite.
Et Muscadès, bon, alors, c'est... Il y avait du monde, hier soir.
Non, mais là, on commence à arriver sur un gros festival.
Mais Muscadès, il restait encore des places à vendre, quoi, sur place.
Ah, quand même, ouais.
Donc c'est mais en fait tout le monde se précipite sur le Hellfest, quoi, mais en dehors du Hellfest, si on va dans les petites salles en semaine, il y a personne, quoi.
Voilà, comme dit Joe, en fait, ils centralisent, ils
se disent on va avoir vacances, quoi. Ils se disent allez, pendant une semaine, j'arrive 2 jours avant le Hellfest, je reprends 2 jours après le temps de récupérer et je me fais un budget vacances.
Voilà. Donc,
déjà le prix de la place, on a combien maintenant? 200, 300 euros?
Oh là, je crois qu'on en arrive proche des 400 euros.
400
quoi.
Euros
pour la place et puis ensuite toutes
400 euros pour les 4 jours ou 400 euros la journée? Non, c'est pas
les 4 jours.
Les 4 jours, ouais. C'est quand même un gros budget parce qu'il faut prévoir le lieu où dormir. Il faut prévoir la bouffe,
les boissons,
après le camping si vous êtes...
Et puis
le trajet,
aussi,
et puis l'achat du merch, le trajet. Nous, on y avait joué au Hellfest en 2017, on avait la chance, comme on jouait, on était invités sur les 3 jours. Mais,
On avait payé le logement à Nantes,
on avait pris un Airbnb, et puis, mais après, en réfléchissant quand on y était, on se disait, le gars qui vient, il a intérêt d'avoir de l'argent de côté, parce que quand il a fini de payer tout ça...
Tu vois, c'est vrai
que c'est peut-être pas le profil du fan de métal.
C'est généralement.
Voilà, c'est ça. Après, tout.
C'est ça, si tu veux profiter.
Alors, c'est paradoxal parce qu'en fait, tu prends un gros festival comme le Hellfest, c'est très bien. T'es tenté, il y a je sais pas combien de groupes, 130, 150 groupes.
Non, c'est vrai que après, tu proratises par rapport au nombre de groupes. Le
problème, c'est que nous, on l'a vécu. Quand t'as 2 groupes que t'adores qui jouent en même temps, ça fait mal. Alors que, comme tu dis, il aurait peut-être été plus préférable d'aller voir ces groupes-là sur leur tournée dans l'année, dans des salles à côté, des villes à côté. Vous êtes sûr de les voir les deux? Moi, je sais qu'on a eu le cas avec Joe et puis Mortu quand on était au Hellfest. On s'est baladé un peu comme tout le monde. Et tu te dis, je vais aller voir ce groupe-là. Et puis tu regardes sur le programme. Tu crois que tu vas avoir le temps d'aller te parler, t'as jamais le temps parce qu'il y a tellement de monde, c'est juste pas possible. C'est le risque.
Tu peux voir le début de l'un et la fin de l'autre.
Il faut voir le début de l'un et la fin de l'autre.
50-50.
PME t'amènera en même temps.
Le temps de faire le chemin.
Tu loupes un peu de chasseur.
Tu vois la Warzone qui est tout au fond, puis t'as la mini-stage après, c'est foutu.
C'était en 2023, t'as Behemoth, Temple et Amenra Valley. J'ai quand même réussi.
T'as vu les deux?
Oui. J'ai même pu entrer dans le pit photo pour Amenra, j'y croyais pas. Mais on m'a laissé entrer, c'était super. Mais ouais.
Voilà donc pour ce qui est de Nancy, en fait, le Grand Est en règle générale, beaucoup de groupes. Peu de structure, des petits bars sympas, mais bon, après nous, en respectant tout, parce que nous, on a énormément de respect pour. On sait d'où on vient, on sait où on est. C'est difficile d'aller jouer dans des salles de 50 personnes. Puis pour nous,
c'est pour toujours jouer au même endroit, il n'y a pas d'intérêt.
En plus, les musiciens ne sont pas sur.
C'est pour jouer tous les ans, tous les 6 mois au même endroit. Les gens disent, ouais, venez, on monte une date. Non, mais là, c'est mort. Nancy, ça va.
Ouais,
on va peut-être attendre un petit peu.
Grand Est, on a beaucoup joué. Là, on a essayé surtout de trouver des dates dans l'Ouest, parce qu'on a toujours été très bien reçus dans l'Ouest, partout où on a joué. Et dans le Sud, on, paradoxalement, on n'est pas trop allé jouer dans le Sud. On a fait Fréjus,
Toulouse.
Ouais.
Sud, non, après c'était Lyon, Grenoble, Chambéry.
Voilà, le quart. L'hémisphère nord de la France, en fait, qu'on a fait le plus souvent.
Voilà. C'est vrai que Marseille, tout ça,
Montpellier, Marseille, ouais.
Ah si, on a joué.
Non, on n'a pas joué.
Et au-delà de la France, si on pousse un peu les frontières, le Grand Est, vous êtes quand même proche de l'Allemagne, quoi. Enfin,
alors l'Allemagne, paradoxalement, on y a joué deux fois. Une tout début avec Mortuary. On avait joué à Ludwigshafen dans un festival et on y est retourné à Munich quand on a fait la tournée avec Vader Entomb en 2018. Mmh. Voilà, aussi c'était un beau souvenir.
On est parti 15 jours, on a fait 10 dates à peu près.
Ouais.
Donc dans
toute l'Europe.
On a fait 6 pays, je crois.
On a fait 6 pays.
République tchèque, Pologne, Italie, on est en France, Suisse.
Autriche, au Suisse. Suisse, c'est ça. Ouais, Suisse, c'est ça. Puis après la France, on a terminé par une date en France.
Juste près de chez nous, à Metz.
À Metz, voilà. Mm.
Donc c'était cool. Vraiment une super expérience, on a beaucoup appris.
Vous voyez une différence entre le public français et le public européen, enfin, le public de l'Europe de l'Est?
On voit une différence vraiment entre les pays plutôt d'Italie, enfin, le public italien et le public français, c'est différent. Eux, ils viennent vraiment que pour les têtes d'affiche, par exemple.
Ouais.
En Italie, là, on l'a vu quand on a joué. En Italie, ils sont venus que pour Intomb et Vader.
Et ils sont pas venus pour nous, ni le groupe avec qui on jouait. On jouait avec un groupe italien. Il y avait très peu de personnes devant. Et là, on s'est dit, même ça ne va pas faire beaucoup pour Vader Entomb, hein, parce qu'on pense aussi à la tournée en général. Et après, tous les gens sont arrivés pour Vader Entomb.
C'était plein.
Et alors qu'en République tchèque.
Ils sont arrivés dès le départ.
Dès le départ. La salle était blindée. Ouais. Dès qu'on a joué, c'était super. C'était notre deuxième concert. Et la salle était pleine. Et ils sont restés, ils restent du premier groupe jusqu'au dernier groupe. Ils ne partent pas, c'est ça qui est bien. Alors ils arrivent dès le début du concert, dès l'ouverture des portes.
Ils ne sont pas expressifs, mais ils sont là, ils bougent et ils achètent du merch, ils sont à fond.
Ils écoutent et puis ils prennent plaisir après à aller discuter avec les musiciens, ça aussi. Parce qu'on a discuté avec pas mal de Tchèques qui étaient dehors, là, qui nous demandaient des renseignements sur notre musique et tout ça. Alors que ouais, les Italiens sont un peu plus.
Parce que c'est en Italie, il y a des gros festivals de métal en Italie, j'ai pas connaissance de. Parce que toi en Espagne, il y a le Resurrection Fest.
Il me semble qu'il y en avait un à Turin, mais fut un temps, mais alors je sais plus le nom de.
En République tchèque, il y a le Brutal Assault.
Le Brutal Assault, exact. Oui, il y a les festivals comme l'Obscène Extreme Fest. L'Obscène Fest.
Ça, c'est quelque chose aussi.
Ouais. Après, oui, l'Allemagne, c'est là où...
Oui, c'est vrai, en Allemagne, il y a beaucoup de festivals. Il n'y a pas que le Wacken, il y en a plein d'autres.
Oui, il y a plein, des festivals un peu moindres que Wacken et tout ça. Ouais, il y a des festivals pas mal.
T'as la Belgique qui bouge bien aussi.
La Belgique aussi, ouais.
La Hollande. Il y a des bons festivals un peu partout.
Le Dynamo, Open Air, il y a le 4As en Belgique aussi. C'est, quand on voit les têtes d'affiches, quand on voit les affiches en elles-mêmes, c'est intéressant. C'est incroyable. Après, il faudrait peut-être plus de Hellfest. Si on va par là dans la réflexion qu'on se pose. Peut-être avoir un Hellfest et puis un peu plus dans l'Est.
Le
Motoculteur,
le
Silac.
Sur le Silac.
C'est près de chez vous aussi, ça, le Motoculteur, c'est pas loin.
Ouais, à Carré.
À Carré. Ils ont changé de.
Le site des Vieilles Charrues.
Ça reste toujours à 200 km.
Voilà. Et là, le motoculteur.
C'est vrai que tout est centralisé finalement.
Ouais, le motoculteur, depuis qu'il s'est implanté sur le site des Vieilles Charrues, le motoculteur, s'ils prennent quand même. Enfin, faudrait quand même qu'ils prennent le flambeau, quoi. Mais ça va devenir en fait une alternative au Hellfest.
C'est une question de moyens, peut-être. Ils ont peut-être pas forcément les moyens que peut avoir le Hellfest.
Bah, là, il y a quoi, Machinette, quoi, programmée.
Ah oui, quand même,
les prochains.
Ils ont
2025, quoi. Mais comme tu dis.
Quand même, ça commence à chercher là. Là, on se rapproche plus de tête d'affiche style Hellfest.
Ben oui,
maintenant ça commence en fait. Avant, il y avait c'était type Binaïti qui était en tête d'affiche. Maintenant, on arrive sur des.
T'avais des trucs comme Napalm Def, là, tu commences à franchir un palier quand tu t'invites des groupes comme Machinette.
C'est Cultura, je crois, ils avaient joué aussi il y a quelques années.
Ouais,
c'est Cultura.
Ah non, les affiches du Motoculteur.
Oui, non, mais c'est quand même.
Maintenant, on espère y jouer l'année prochaine. Parce que ça fait 2-3 fois qu'on relance à chaque fois, on n'est pas dessus. Voilà, on a la chance maintenant d'avoir un tourneur, Vincent Devaux, qui travaille sur The Best of Underground, qui s'occupe de nous. Donc il nous avait trouvé la date de soir. Puis là, il est en train de plancher sur toute la partie 2025 pour faire un maximum de festivals et puis des tournées. bah, notamment avec Alexandre de Mofis. Sur le but du genou, voilà, c'est, vous avez bien compris, c'est de faire des dates un peu plus importantes avec un, beaucoup plus de public. Mmh. Déjà d'un point de vue par rapport à toute la carrière que l'on a derrière nous. Et puis c'est aussi le fait de toucher plus de monde. Ouais, ça ramène un peu plus de monde. Donc on a un petit peu cette idée aussi d'Hellfest de jouer dans des gros festivals pour toucher un maximum de monde. Voilà. Mmh. Puis après, bon, effectivement, aussi on a une organisation comme beaucoup de groupes. On n'habite pas tous dans le même quartier, hein, bien entendu. Hein. On est trois sur Nancy.
Joe, il est sur Paris. Dans la même région, c'est ça?
On n'est pas du tout dans la même région. Joe est sur Paris et Christophe, notre nouveau guitariste, qui était l'ancien guitariste sur la période Eradicate, qui est revenu, lui, il habite sur Lyon.
Donc en termes de logistique,
là, c'est un peu chaud. Là, pour, par exemple, rien que demain pour repartir, on va déposer Joe à Nantes. On va déposer notre ingé son à Reims. Christophe à Massy, près de Paris, pour qu'il reprenne l'avion, le train pour redescendre sur Lyon, remonter à Reims pour descendre l'ingé son et repartir en Lorraine. Donc demain, on va rouler pendant 12 heures, en fait. Mais bon, là, c'est un choix qu'on fait. Hein.
Pour les répétitions, ça se passe comment?
Ah bah les répétitions, il n'y en a pas en fait.
Ouais,
c'est un peu...
Alors oui, ouais. Bah, comme maintenant...
On est rentré dans une autre ère. Moi je suis vieux jeu, lui, ouais. Il fait partie de la nouvelle...
Comme maintenant, on est tous équipés à la maison, on a tous
oui,
un home studio.
Il y a Internet.
Voilà, et même, bah, tu bosses sur bande, tu bosses à la maison, et ça te permet de mettre des bouts, de travailler plus facilement. Quand on se voit, on répète, qu'on essaie de répéter, c'est vraiment pour finaliser des points de détail. Soit on fait des résidences, on essaie de prendre une salle pour travailler le show, les setlists. Mais tout ce qui est répète, on essaie d'aller vraiment
Bah là, comme
pour finaliser
on est en train
le studio, quoi, par exemple.
Comme on est en train de travailler un peu sur de nouveaux morceaux,
de nouvelles compositions,
sans dévoiler quoi que ce soit, voilà, on va travailler 2-3 morceaux. Par séquence de 3 titres, on essaiera de se faire une répète, comme dit Joe, une résidence de 2 jours. On verra ces 3 morceaux-là.
Il faut que ça tourne déjà, en fait.
Ça tourne. Bah, que chacun s'est approprié le morceau, qu'il y ait déjà le chant dessus. Ça aussi, c'est important. Que le chant soit déjà posé dessus. Parce que, autant moi, je peux peut-être intervenir sur des passages rythmiques et tout ça. Autant aussi, moi, ce que j'attends aussi des musiciens, c'est qu'ils disent tiens, il faudrait peut-être pas que tu chantes là, il faudrait peut-être que tu chantes un peu plus longtemps là. Ça aussi, c'est hyper important. Et ça, effectivement, on ne peut l'avoir que quand on est ensemble.
T'as un fonctionnement démocratique.
Ah oui, c'est important. Ah oui, mais le mortuaire, ça te chantait comme ça.
Mais c'est pas bon. Il faut qu'un groupe, il faut que ça soit dictatorial. Il faut qu'il y ait un membre du groupe. Écoute, non, on fait comme ça. Et il faut que ça avance. En fait, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop.
Bah, au bout d'un moment, oui, il faut
ça,
se faire.
Tu vois,
peu...
ça tourne en rond, en fait. Tu vois. Ouais. Donc il faut quelqu'un qui tranche.
Ouais.
Donc, c'est ce qu'on peut faire généralement. Des fois, il y a toujours un qui pousse un coup de gueule.
C'est toujours le même qui tranche ou
ouais, des fois, ça peut dépendre des sujets. Ouais. Il y en a qui prend le relais. Non, là, maintenant, on arrête les conneries.
Bah, après, Joe, il a quand même une part importante du fait de son instrument. En termes de rythme, et, voilà, il faut quand même que ça soit soutenu. Donc, à un moment, c'est
ouais,
lui qui
challenge dit, aussi, quoi.
Niveau challenge.
Ouais. Parce qu'ils me disent,
c'est
bien, mais il faut t'en rajouter, quoi.
Sur des albums, de faire des trucs de dingue, et après, il faut
après,
arriver
faut,
à les produire sur scène.
Sur scène. Ouais, et là, c'est.
Et là, c'est là qu'on voit des fois la différence. T'as des groupes qui font des trucs de dingue, et puis après, sur scène, t'es des fois un peu déçu parce que ça suit pas. Donc, on essaye de faire des trucs, et Joe, il est là pour dire, attendez, les gars, ça, je peux pas faire, on peut.
Parce que des fois c'est intense, ça. Mais ils veulent que doubler une partie, quoi, qui est déjà relativement intense. Ok. Il faut faire attention pour la.
Ouais, parce qu'après, il y a le rythme, le souffle et tout. Pareil sur le chant, voilà. Ouais. Moi, j'ai tendance dans l'écriture à écrire énormément. Donc, je chanterai tout le temps. Donc là, ils sont là pour me dire ouais, attends. Laisse un petit peu respirer le truc. Laisse un riff ou deux tout seul de guitare.
Du calme,
Rodrigo. Moi, j'ai du texte à Hugo, là. J'ai déjà écrit 9 ou 10 morceaux déjà pour le prochain album. Il y a une tonne de textes. Donc, si je commence à traduire et à mettre en. À ça, à appliquer ça sur le. Oui, il faudra des morceaux de 9 minutes en blast à fond. C'est prêt, Joe.
J'ai pas le choix, quoi. Challenge.
Oui, on lui.
Quoi, tu sais.
En fait, on lui amène ça toujours de manière très délicate. T'as vu, Joe, t'as envoyé le morceau.
Je te laisse faire, on te laisse faire.
On te laisse faire.
Tu as carte blanche.
Et après,
quand il voit que ça passe, il dit, oh, intéressant, oh, t'es à l'aise. On va rajouter un petit peu, 2-3 trucs.
C'est toujours ça. C'est bien le passage que
ils sont cruels, en fait.
De 1,37 à 1,63 à 1,50, c'est bien. Est-ce que tu peux le doubler? Et après, tu... En fait, tu tu t'accélères un peu plus en blast. Ouais.
Et tu viens de doubler ce que tu, ouais. ce que tu viens de doubler en fait.
Jean-No est très fort là-dessus, le bassiste. Ouais. Il a l'idée du truc. Alors c'est des fois des très bonnes idées, hein. Mais là il y a Joe qui dit des années. Je suis pas une machine. Il faut un petit peu que ça respire. Il faut qu'il y ait un petit peu de groove parce que Joe est très groove. Hein. C'est ce qui donne, c'est ce qui fait un petit peu
là, l'image de mortuaire. En fait.
C'est important. C'est important parce que faire du c'est pas intéressant. Ouais, il faut que ça respire, il faut qu'il y ait des passages aériens avec des jeux, des shuffles sur les charlets, la caisse claire, des bordels.
On s'amuse un petit peu, comme voilà. Il faut que ça reste musical quand même.
Parce que pour un batteur, si on lui disait tu fais que du blast pendant 2:30, c'est pas intéressant pour un musicien.
Après, c'est pas du brutal death non plus ce qu'on fait. Voilà, on n'est pas sur du abortide. Bon, même si abortide, ça peut être varié, mais eux, c'est vraiment un style où ça bourre en fait. Ouais, voilà, c'est ça.
Nous, on est plus dans le death mélangé avec du thrash metal, parce que nos racines, à moi et Jean-No, c'est vraiment le thrash metal. C'était Sodom, Destruction, Creator, c'était toute la vague allemande, et puis la vague américaine aussi de l'époque, avec les violences, avec tous les... puis artillerie aussi, on écoutait toujours ça.
Le côté engagé du thrash metal aussi.
Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Ce côté un peu, comme on disait tout à l'heure, avec la vallée de la Ruhr là, en Allemagne, où... les conditions sociales difficiles avec beaucoup de chômage, les jeunes qui sont laissés au lieu de faire les cons, on fait de la musique. Bah, on a connu un peu ça au début, hein, même si on n'était pas dans les situations aussi extrêmes de ce qui se passait en Allemagne à l'époque. Mais voilà, c'est une musique de révolte, de rébellion. Et le death metal, bah, après, c'est venu un petit peu colorer notre musique, parce que c'est ce qu'on écoutait. Moi et Jean-No, on a eu la chance de découvrir tous les styles de musique. Quand on a commencé à écouter de la musique, t'allais chez les disquaires, il y avait 3 ou 4 albums. Hein. T'avais le nouveau AC/DC, t'avais le nouveau Def Leppard, t'avais le nouveau Saxon, le nouveau Judas Priest. Il n'y avait pas grand-chose. Puis après, les années arrivant, bah, t'avais Venom, oh, c'est quoi ça? Et après, t'avais Metallica, oh, c'est quoi ça? On a vu tous les groupes comme ça arriver. Quoi. Tous les styles. Puis après, bah, t'as eu les Pestilences.
Le disquaire, s'il a du client pour ces musiques-là, bah, ils vont prendre des nouveaux.
Et bah voilà.
C'est ça va l'inciter finalement à apporter des CD. Ouais,
on doit beaucoup disquaires parce qu'il y en a qui ont joué le jeu. Hein. Nous, on en avait un sur Nancy. Le gars, il allait chercher des trucs improbables. Quand il a rentré le premier Carcass, il faut oser quand même. Le premier album de Carcass, Rick of Putrefaction. Tu te dis, c'est quoi ce truc? Moi, au début, j'étais persuadé qu'il y avait un chien qui chantait sur l'album. C'est pas possible. C'est quoi de ça? Non, c'était le punk metal qui arrivait d'Angleterre avec c'était le début du grindcore, quoi. C'est quoi de ça? Les premiers Napalm Death, pareil. Donc, on a connu toute cette musique qui s'est développée, qui s'est. En plusieurs ramifications, comme ça, un peu partout, comme un grand arbre. Et là, il y a des styles partout. Puis il y en a encore plein qui arrivent chaque semaine. Hein, chaque année, il y en a un qui invente un truc. Tiens, on va mettre ça. Ouais, hop, allez, il met un. Bon, maintenant, c'est un peu facile. Tu fais un style, tu rajoutes un petit truc, hop, t'inventes carrément un nouveau style. T'inventes un nouveau nom et il n'y a que ton groupe qui joue ce style-là. Il y a autant de styles que de groupes. Hein, c'est ça qui est un peu dommage.
Non, mais c'est ça.
Après, ça reste du métal. Ça reste même du rock'n'roll. Voilà, comme dirait Lémy. Hein. Ça reste que du requin.
No boundaries in metal. C'est vrai que le metal, c'est un style de musique qu'on peut marier en fait avec tous les styles de musique.
Oui, tout à fait. C'est hyper riche parce que là où il y avait peu avant, là.
Tu vois, le néo metal, quand c'est arrivé, ils ont réussi à lier un peu de rap avec des grosses guitares, des pistos.
Chose qu'on ne faisait pas au début.
De Korn, Limp Bizkit, tu vois.
Au tout début, tu ne pouvais pas faire ça, tu te faisais assassiner. Il y a certains groupes qui avaient tenté d'amener les puristes. Il n'y avait que des puristes, en fait. Ah non, on était bloqués dans le trash.
Dans les années 80, 90.
Voilà, il y a des groupes qui ont essayé. Voilà.
Pourtant, c'est dans les années 90 qu'est né, en fait, le metal américain, quoi. Enfin, tous ces groupes-là. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, quoi. Enfin, nous, notre génération, en fait, on est tombés, en fait, dans le metal grâce, en fait, à ces groupes américains, quoi, dans les années 90, quoi. Alors après, t'as des puristes qui vont dire, non, mais attends, c'est quoi ça, Marilyn Manson?
De toute façon, on attribuera toujours la légende.
Vraiment.
Le spectre,
complètement.
Et puis, donc, je parle pour moi, mais je suis pas la seule, quoi. Enfin, moi, je suis tombée dans le metal grâce aux groupes américains. Et puis, comme ça m'a plu, du coup, j'ai élargi l'horizon. Et en effet, en France, Il y a des groupes comme Loudblast. Ah, mais c'est super, quoi. Enfin, donc le métal existait déjà en France, ouais, quoi. Bah, avec
depuis très longtemps.
Oui.
Et Gojira a vraiment aussi démocratisé un peu le métal, surtout encore plus avec les JO.
Ah oui, alors là, maintenant,
c'est bien. Ça va permettre.
Est-ce que ça va servir à toute la nouvelle vague de jeunes groupes qui arrivent? On sera peut-être pas concernés. Mais si ça peut donner de l'élan à toute la scène métal française qui arrive, tous les jeunes groupes, là. Parce qu'on a l'occasion.
Peut-être que les jeunes générations vont se dire, ah ouais, il y a du métal, c'est intéressant.
C'est intéressant.
Peut-être prêter une oreille beaucoup plus.
Après, quoi qu'on peut penser de l'organisation des JO, mettre un groupe comme Gojira sur la cérémonie d'ouverture, la chapeau.
Ouais.
Après,
ouais.
Je suis pas trop fan de tout ce qui a pu être dépensé pour les JO, parce que voilà, il y a quand même des gens qui crèvent encore de faim chez nous, mais arriver à placer musicalement un groupe comme ça, voilà, ça ne peut que donner de l'impact.
Ça m'étonne pas du tout de Thomas Joly.
Ouais, c'est une très belle cérémonie d'ouverture.
Oui, 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 franchement, c'est
plus avec tous les styles. En fin de compte, d'avoir un groupe de métal sur cette cérémonie des Jeux Olympiques, en fait, ça a choqué personne.
Même
des gens que j'ai entendu dire, ah bah oui, mais Gojira, ça fait partie de notre patrimoine. Attends, on rembobine. Dans 15 ans, tu me disais quoi du métal que dans 3 semaines, je voudrais plus en entendre parler.
C'est ça. Les gens sont assez versatiles quand même, leur façon de penser, de prendre les choses. Parce que le métal, c'est quand même pas bonne presse quand même, hein. Même Gojira. Hein. Mais là.
Ici, on est dans le vignoble nantais, donc Clisson, le Hellfest. Bah, je vois comment le rapport en fait a changé en fait à Clisson, quoi. En fait, le rapport au Hellfest, quoi. Bah,
alors moi, je voudrais vous poser une question quand vous êtes, vous allez au Hellfest à chaque fois, hein, c'est ça. Moi, de ce que j'entends, c'est que le public change énormément.
Vous avez senti une évolution vraiment du public par rapport au profil comme pas du public.
Le dernier Hellfest.
C'est nous qu'on intervient.
Oui, c'est très bien. Au Hellfest, les autres années, j'étais arrêtée dans le public par des gens que je connaissais. Ah bah tiens, Amandine, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et là, 2024, côté public, je n'ai rencontré personne que je connaissais.
Ah carrément.
Non.
Donc toute une autre.
Donc pourtant je traverse le site.
Notre catégorie de public.
Alors par contre au VIP là je connais tout le monde quoi.
Ouais.
Parce qu'on est entre nous, photographe.
Ouais, c'est toujours les mêmes. Journalistes.
Voilà. Mais à chaque fois en fait que j'allais côté public je
connaissais pas. Donc le public a bien changé.
Ouais. Et donc Corentin Charbonnier qui sociologue, anthropologue qui a rédigé sa thèse sur le Hellfest. Qui analyse en fait tous les ans en fait les données sur le Hellfest et en fait la majorité en fait le public en fait vient au Hellfest pour la première fois.
C'est pour une curiosité en fait parce qu'ils ont entendu le nom, ils se sont dit il faut au moins le faire une fois.
J'entends plein de gens.
C'est comme faire le parc Astérix, j'ai l'impression comme Euro Disney.
Ça fait attraction, j'ai l'impression.
Le Hellfest c'est comme le parc Disney, il faut qu'on y aille au moins une fois.
Ouais.
Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une ambiance.
On peut pas déjà dire, c'est peut-être trop tôt, de dire, c'est un nouveau public qui émerge et qui va rester fidèle à ce style de musique. Moi, j'y crois pas du tout. Hein. Personnellement, je pense que c'est plutôt comme dit Joe, c'est des curieux qui viennent au Hellfest comme ils vont aller au Disneyland.
Qui
sont
entre amis, ils vont le faire une fois.
C'est devenu un truc de.
Ils se mettent dedans.
Oui, ouais, peut-être ça peut créer effectivement.
C'est un peu trop tôt pour le dire. On est dans un revirement de public qui a peut-être. Bah, cette année, comme tu disais, peut-être l'année d'avant, j'entendais des gens qui disaient il y a des gens nouveaux qui arrivent dans le public, ils sont pas du tout métalleux. Bah, toujours ce sectarisme. Hein, après, il faut ouvrir la porte, ça peut être sympa. Mais. Est-ce que ça va être l'identité du public du Hellfest dans quelques années?
Après, encore une fois, quand tu vois le coût du billet, tout le monde ne peut pas se payer un billet à 400 euros.
Alors, est-ce que peut-être...
C'est devenu élitiste, en fait, tu vois. Mais bien sûr, c'est devenu, je dirais pas bobo, parce que ça, c'est le terme qui revient régulièrement, mais c'est devenu élitiste, en fait.
Bah, c'est ça.
Comme chaque concert.
Est-ce que le fan de métal
primaire,
entre guillemets, bien entendu, je pèse mes mots, a encore la possibilité de se payer le Hellfest? Je suis pas sûr. C'est peut-être réservé à une population qui a un peu plus de moyens.
Et peut-être, peut-être ça que tu le ressens, comme toi tu y vas chaque année, peut-être que tu le ressens ça aussi. Des gens finalement qui sont un peu plus. Qui sont peut-être différents, quoi, non? Comment toi tu le ressens par rapport à ça? Toi tu as vu cette évolution, sociale, mais on peut dire ça, l'évolution sociale peut-être.
La tarification, le Hellfest a choisi son public.
C'est ça qui m'inquiète un peu. Alors, c'est de par la tarification, c'est une bonne remarque que tu as, c'est de par la tarification, le public va migrer en fait. Ça va être complètement différent.
Les métalleux, eux, se rabattent sur d'autres événements moins coûteux.
Moi, ce que je voulais. Ouais, alors après, quand tu vois le coût, même quand tu vas voir un concert, que tu vas voir les Foo Fighters à Bercy ou à Paris, c'est déjà 150€ la place. Là, tu sais que tu vas voir des groupes comme Korn, comme Pantera, pour 400€ sur 4 jours.
Ouais.
Là, tu vas en fait, les 4 têtes d'affiche, ça te coûte moins cher déjà que
de les avoir vus séparément.
C'est ça.
C'est ça.
Ouais, mais,
en même temps, tu cumules la bouffe, tu cumules tout, et en fait, c'est le package global qu'il faut voir.
Par manque, Bercy. Parce que
le bonheur pour être devant.
Bah, c'est
pour
ça.
Les têtes d'affiche.
Après, c'est aussi grand, c'est trop grand.
C'est ça. Donc.
Le Hellfest, enfin, le site est quand même assez petit, quoi. T'as des groupes comme Metallica. Alors, c'était devenu la conférence de presse de Ben Barbeau chaque dimanche après-midi. C'était. Non, alors, vous posez pas la question. Metallica ne viendra jamais au Hellfest.
Ouais.
Et Metallica appelle le Hellfest. Ouais, on a quand même envie de venir jouer.
Ouais, c'était son rêve en plus à Ben Barbeau, je crois.
Bah ouais, c'est un rêve caché.
Et ce qu'il disait, non, mais de toute façon, Metallica viendra pas au Hellfest. Metallica joue à Bercy, mais pas ici, quoi. Enfin, c'est trop petit, quoi. Enfin,
moi, j'imaginais pas un Hellfest sans Metallica. Quand tu voyais les groupes qui ont joué, il y a quoi
Ils ont adoré.
Guns N' Roses a joué, Aerosmith Smith a joué.
Deux ans après, je crois.
Deep Purple, tous les gros ont joué. Donc, Metallica, par défaut, devait jouer à Hellfest. C'est un peu logique. Quand on voit les affiches qu'il y a eu, les têtes d'affiches qu'il y a eu.
Et c'est quand même le plus gros festival européen maintenant, non? En termes de cotes. Après le Weekend.
Après le Weekend, ouais.
Même encore, je pense qu'il est passé devant le Weekend maintenant. Donc,
je pense,
En termes d'affluence, peut-être.
Ouais. Et puis à l'international, maintenant que Clisson est connu, je viens souvent ici, enfin mon père habite à côté. Donc j'ai connu Clisson avant le Hellfest, et puis on était dans un restaurant l'autre soir. Et donc quelqu'un qui racontait, Clisson, tu vois, sur la carte d'identité, il est à l'étranger. La personne a vu la carte d'identité, Clisson.
C'est synonyme du Hellfest. Alors qu'il y a une richesse, un patrimoine, une histoire, c'est Hellfest.
C'est comme Paris, Clisson,
c'est Hellfest.
Limite, c'est la même chose. Voilà. C'est la même réputation que Paris.
Clisson, Rock City. Et c'est vrai que c'est. Et Ben Barbeau avait menti, quoi. Il avait dit qu'il allait organiser un festival de rock un peu comme les Vieilles Charrues. Bon, il a menti à l'époque, mais là, c'est vrai que c'est avec le.
Après, il a vu qu'il pouvait ramener tout. Enfin, tous les groupes, il s'est dit,
l'ouverture.
Pas bien sûr. Après, il s'est fait prendre au jeu. Après, il a eu raison d'un côté, parce que c'est ça qui fait rêver plein de gens.
Puis c'est vrai que son festival est en train de devenir de plus en plus mainstream, quoi, de par le public. On en parlait tout à l'heure. Et puis aussi la programmation, quoi. Enfin, t'as des.
Alors, qu'il aurait pu faire son festival.
Limite, maintenant, t'as carrément des mecs qui. T'as carrément des one-man shows, non? Des choses comme ça. Enfin, ils vont s'amener à faire ça. Quoi.
T'as des groupes, ça passe au Hellfest.
Parce que ça ira de plus en plus vers le rock.
Ouais.
Le rock et la pop.
Les Foo Fighters, j'avais relu mon article, quoi, enfin de 2017, quoi, où Ben Barbeau avait dit non, les Foo Fighters ne viendront jamais au Hellfest. Et là, je vois.
Limite, maintenant, c'est les Foo Fighters qui payent pour jouer au Hellfest. C'est exagéré, mais.
Ouais, et je crois qu'en fait.
Alors après, effectivement, si ce genre de groupe appelle pour venir jouer, c'est très bien. C'est très bien pour nous. C'est très bien pour la France. C'est en espérant que ça se propage un peu partout, ça se duplique dans d'autres villes. Ça peut être très bien.
Mais je pense que c'est pas le
Ben Barbeau qui a été le puriste. Les prochaines affiches seront peut-être moins métal en fait.
En même temps, il y a toujours au Hellfest le Tar Temple, quoi. Il y a toujours ces deux scènes-là. Mais c'est vrai que cette année, je me dis, je suis allée à l'Altar, à l'Altar, et puis j'ai entendu du death metal. Putain, j'avais pas entendu du death metal encore de tout le week-end. Pourtant, je suis dans un festival de metal, quoi. Et puis non, j'avais pas encore entendu du death metal.
Alors, il faudrait peut-être qu'il scinde. On va pas faire toute l'interview là-dessus, mais il faut peut-être qu'il scinde en deux, en fait. Une partie du Hellfest qui est réservée aux stars du rock et de la pop, et puis le côté bien underground.
Ils font déjà une journée qui est un peu plus rock ou parfois un peu plus soft.
C'est main stage, c'est la scène mainstream, quoi. Donc Altar Temple, Black Death Metal, Warzone.
Et pour les enfants, j'ai vu qu'ils avaient Hellfest pour les enfants aussi.
Hellfest Kid.
Et donc ça, c'est dans le site, c'est ça, ou c'est juste à côté?
Alors,
comment ça se passe, ça?
C'était à Gétigné, en fait, là où a lieu la Maroc Metal Fest. Donc c'est un autre festival de métal qui est dans la région, quoi. Et c'est vrai que le Hellfest, là, pour le coup, ils ne sont pas moqués des enfants, quoi. Ils ont organisé en plein air un mini festival, quoi, pour les enfants, les parents, et t'as les enfants de CP, quoi, qui étaient des écoles, quoi, qui étaient...
ça par contre, c'est exceptionnel.
Je trouve ça vraiment bien.
Et moi, je pensais
déjà que tu cultures les gens finalement au métal.
Ça faisait
tu gommes un petit peu les a priori,
tout de suite.
Violence, J'ai vu qu'ils avaient brûlé des églises après. Ouais, c'est ça, voilà.
Ouais, bah, enfin, moi, j'étais pas au Hellfest Kid, quoi. J'étais au off, quoi. Et puis, c'est vrai que quand j'ai vu les photos, les vidéos, j'étais.
Ah, c'est bien.
Donc, ça vaudrait le coup de pouvoir emmener ses enfants à ce type de festival, quoi.
Ah, oui. Ah, tout à fait, ouais. Ouais, et puis là.
Alors, peut-être aussi la recherche d'un autre public, là.
Oui. Parce que
c'est malin aussi, hein, ouais. Dans la com.
Tout est calculé.
Effectivement,
tu pars en vacances, tu pars avec tes enfants, avec ta femme, tu te fais un petit week-end, t'aimes bien la musique déjà, tu veux que tes enfants passent un bon moment, puissent avoir plein d'activités, limite tu mets des châteaux gonflables.
Bah voilà.
C'est exagéré, mais on est pas loin, quoi.
En fait, c'est l'idée d'Éric Perrin, quoi, le responsable de la communication du Hellfest, en fait, d'ouvrir le métal aux nouvelles générations.
Bien sûr.
Parce que c'est.
Aux EHPAD aussi, aux vieux.
Oui, pourquoi pas. Enfin,
comme je vais bientôt aller en EHPAD.
On plaisantait l'autre fois, tu demanderas à Ben Barbeau la prochaine fois de nous ouvrir un EHPAD. Hein,
ouais.
Comme ça, on sera tous
tu
ensemble.
Rigoles,
mais tu rigoles. Y a,
mais non, mais c'est
la population qui va vivre dans les EHPAD dans quelques années. C'est des gens qui ont commencé à écouter du métal comme nous, hein, nos parents, salut, nos parents et tout ça. Donc, peut-être pas mes parents, ils ont pas écouté du métal, mais plus jeunes.
Oui.
Donc, automatiquement, il faut penser à eux.
Mes parents ont écouté, surtout ma mère, quoi, du métal. Et
mes parents, ils en écoutaient aussi, mais c'était pas contre leur gré, en fait. Parce qu'ils prenaient ce qui arrivait dans la chambre, donc au bout d'un moment, ils l'ont subi.
C'est plus le terme.
Ils écoutent quoi, tes voisins? Du métal? Ils aiment ça? Non, mais ils en écoutent quand même. Ouais. Mais oui, enfin, les gens qui sont nés dans les années 60, quoi. Enfin, ma mère, je l'ai remis dans le métal, quoi. Tu sais, quand je lui ai ramené Marilyn Manson à la maison, ça lui a rappelé tout de suite Alice Cooper.
Voilà. Ah, mais elle écoutait déjà.
Voilà. Oui, voilà.
Mon père,
on est en plein dedans.
Et mon père, il vient habiter ici, quoi, à côté de Clisson, quoi. Et pas le Hellfest encore, quoi. Et du coup, mon père, ça lui rappelle aussi tous les groupes que ma mère écoutait à l'époque, quoi. Enfin, Black Sabbath. Et puis même.
Ceux qui ont écouté Black Sabbath, ces personnes de cet âge-là, automatiquement, ils vont se retrouver dans des centres comme
même
ça.
Les Zeppelin, quoi.
Après, génial, les EHPAD.
Et puis même les Beatles, quoi. Helter Skelter, c'est peut-être le premier morceau, en fait,
mon père est fan des Beatles, des Stones et de Led Zeppelin, mais ça, il ne supporte pas.
Ouais.
Il a carrément le.
Pourtant, Led Zeppelin, quoi.
Ouais.
Donc, c'est.
Maintenant, il est. Enfin, non, il ne pas plus, quoi. C'est dingue. Et quand il vient me voir jouer, il me dit non, je ne viens pas, il reste un morceau, il s'en va. Supporte pas que ma mère, c'est tout l'inverse. Ma mère, elle aime pas la musique, mais elle vient me voir, tu vois.
Ouais.
Ouais.
Il dit il y a une bonne ambiance, avec les gens sont sympathiques, même si j'aime pas, il se dégage quelque chose.
Ouais.
Tant mieux.
Ouais, c'est vrai que
ma mère, ça fait 35 ans qu'elle est persuadée que je gâche tout. Parce qu'elle me dit la musique est belle, mais dès que tu chantes, ça gâche tout.
Ma grand-mère pense à nous.
Voilà.
C'est fou. Mais pourquoi il chante?
Pourquoi il gueule, le gars, là, derrière vous? Ça fait 35 ans qu'il gueule.
Ouais.
Vous gâchez votre musique. Vous auriez pu faire une belle carrière. Hein.
Ouais. Et en même temps, en fait, ça a été aussi la. Pourquoi, en fait, à un moment donné, on a saturé la voix? Mais c'est parce qu'aussi la musique était saturée.
Oui.
Donc c'est. Ou alors on va dans le.
Tout à fait, c'est bien.
C'est
bien que tu soulignes parce que quand on répétait au départ.
Ouais.
Moi, je me rappelle, j'avais un tout petit ampli Yamaha de guitare que j'avais acheté, qu'un guitariste m'avait filé. Donc, je chantais là-dessus, moi. J'avais un micro réalistique rouge que je trouvais dans les Auchan et les Cora. Je chantais là-dedans, on m'entendait pas. Donc, je mettais à fond. Mais le problème, à côté, tu avais deux guitares avec des Marshall.
La batterie.
La batterie qui tapait comme un sourd, et le bassiste qui
donc
le chanteur, il gueulait de plus en plus. Mais j'en suis sûr que ça vient de là. Au début, il essayait de chanter, chanteur. Puis le problème, c'est qu'il ne s'entendait pas. Donc il s'est dit, je vais chanter plus grave, comme ça. Et puis le gros, il est venu de là. C'est parce qu'il a fallu qu'il se fasse entendre. C'est normal.
Alors c'est.
Comme un sourd.
Même le heavy metal. Le heavy metal, on a saturé aussi la voix, vers l'aigu.
Vers l'aigu.
Voilà.
Ah.
Et oui.
Ouais,
c'est là. Donc c'était soit on saturait la voix donc par le growl ou par l'aigu. Les deux sont des voix.
Il y a un moment,
métal.
Il fallait que la voix élève dans les registres parce que sinon on l'entendait plus. Quand la scène scandinave est arrivée, notamment Entombed, Dismember. Avec la célèbre pédale heavy metal, avec un accordage sur le premier album d'Entombed, le Heftenperf, là il fallait se dire, le chant, il fallait vraiment un chant guttural, parce que sinon on n'aurait rien entendu. et puis on ne pouvait pas mettre un chant.
Ça n'aurait pas été cohérent, en fait.
Ça n'aurait pas été cohérent. Mmh. Donc, effectivement, on a commencé à s'accorder de plus en plus bas, hein, même Meshuggah. Donc, à un moment, il faut qu'il soit contrebalancé par un chant différent, sinon ça ne rend plus du tout. Hein. Donc, on a été chercher plus d'agressivité. Et là, maintenant, il y a des chanteurs, ils font des trucs de dingue. C'est là qu'on se rend compte que la gorge... Il y a beaucoup de possibilités.
Et en même temps, depuis les années 90, avec tous ces groupes américains là, qu'on saturait, on a commencé en fait, Slipknot, enfin, tu vois, à mélanger, tu vois, les voix claires, voix saturées.
Exactement.
Et on va de plus en plus en fait, vers ça, en fait, dans le métal. Ouais.
Bon, le metalcore, maintenant, c'est ça.
Ce metalcore.
Ah, le metalcore, c'est vraiment un style.
C'est un mix entre du.
Qui avale un peu tout ce qui est autour.
Et on voit bien, en fait, au niveau des la composition en fait, des morceaux. Donc on a des morceaux un peu plus atmosphériques où là la voix claire se pose et puis des morceaux où et d'autres moments où la musique et la voix se saturent et après on aime ou on n'aime pas mais
toi intéressant dans l'écoute après on accroche on accroche pas mais au moins il faut écouter
c'est ça
faut prendre le temps parce que il y a une recherche une création artistique après leur façon de réfléchir à la musique n'est pas forcément la même que la nôtre.
Oui.
Voilà. On ne recherche pas les mêmes vibrations. Donc, moi, ce que j'aime bien, alors, chose que j'ai été pour avant, parce que quand on est plus jeune, on est assez sectaire. Moi, si le batteur il n'avait pas balancé un blast au bout de 5 secondes, je
décrochais tout de suite.
Bah, j'ai enlevé le disque, hein, je testais de la merde. Ouais, toi, après, on s'ouvre beaucoup plus parce qu'on écoute beaucoup de choses.
Ouais, mais après, tu étais jeune aussi, donc tu avais une période où il fallait fermer.
À cette époque-là, on avait besoin, en fait.
Tu voulais du Furax.
Oui, c'est ça. C'est tout. Alors que maintenant, tu vois, c'est toi. J'adore faire du death metal, de la musique brutale, mais en écouter un peu moins. J'écoute beaucoup moins de death metal, de brutal death metal. À moi, les grosses pointures comme Suffocation, quoi, ils sont vraiment pour moi les références. Alors, le vieux, comme tu disais, celui des années 90, le death metal des années 90, celui qui est venu des États-Unis, Malevolent Creation, Gorgeous, les trucs comme ça.
Morbid Angel,
tu vois, les références. Cannibal Corpse, tu vois, les choses. Ouais, ok, d'accord. Mais tout ce qui arrive maintenant, j'ai un peu plus de mal et j'écoute beaucoup plus de trucs pop, rock, des trucs, je sais pas moi, Genesis. Des vieux trucs. Je prends plus de plaisir à écouter ça.
Internet aussi fait que maintenant il y a tellement de choses et t'as du mal à vraiment à te focaliser sur un artiste en particulier quoi.
C'est clair.
Ça fuse dans tous les sens quoi. Enfin,
ouais, parce qu'avec les internet, les plateformes. Ouais.
Ah bah, avant t'avais un magazine, t'avais juste 2-3 artistes que le label mettait en avant.
T'avais le temps d'écouter puis d'apprécier. Ouais. Maintenant tu cliques, t'écoutes 5 secondes, à côté ça te propose autre chose, clac.
T'as même pas le temps de te concentrer en fait.
En fait, c'est frustrant hein, pour un artiste de te dire qu'on a cliqué sur sa musique au bout de 7 secondes. Parce que tu te dis, derrière, le gars, il a 7 secondes, c'est une intro, je sais pas, c'est un début de morceau.
Ouais, c'est une réelle.
Ce qui était le plus beau, le plus exprimé venait certainement après.
Ça aura jamais été écouté. Il a attiré
l'attention.
Ouais, en 7 secondes.
C'est ça.
Donc ils te font quoi? Ils te font pareil.
De toute façon, ils l'ont dit sur les plateformes comme les études qui sont faites sur les plateformes comme Deezer et tout ça. La majorité des auditeurs n'écoutent pas plus de 47 secondes à un morceau. Hein, ils passent 47 secondes.
Et
tu fais des compos de 3-4 minutes, tu te rends compte, t'as même pas 10% qui écoutent.
C'est ça. Alors, en 7 secondes.
C'est horrible.
Et dans le métal, tu sais, les artistes, ils travaillent l'album, tu vois. Enfin, c'est un album, quoi. C'est pas un morceau, quoi. C'est pas un single, quoi.
Bah, le problème maintenant, c'est que t'as de plus en plus de groupes qui sortent un titre tous les mois.
Ouais. Ça, c'est la nouvelle.
Bah, pour être toujours à la
fin. Les groupes de métal ont commencé à le faire, ça y est. Ils sont rentrés dans ce circuit-là.
Comme ils font la dance depuis des décennies, en fait. Hein.
Ah là, c'est ça. En fait, tu sors un morceau chaque mois. Le public l'écoute. Et au bout de 9 mois, quand tu as 9 morceaux, tu sors physiquement sur un album.
Ouais.
Mais les morceaux sont sortis.
Mais bon, après,
parce qu'ils savent que les écoutes se font plus sur les plateformes que d'aller acheter un physique.
Ah bah oui, mais moi, à une époque, j'achetais des disques et j'en achète plus, quoi.
Voilà. Aussi, maintenant ce que je fais moi c'est pour soutenir un groupe.
C'est le vinyle est revenu.
Le vinyle, moi j'achète le vinyle. Parce que je sais que je vais. T'achètes l'objet.
Ouais.
Il y a ce côté, déjà ça nous touche plus le vinyle parce qu'on a connu ça nous avant que ça arrive le CD. Et comme dit Joe, effectivement, ça permet de soutenir le groupe.
C'est un bon produit.
Oui, c'est vrai.
Moi je préfère prendre un vinyle, quitte à ne pas l'écouter ou l'écouter peu, mais au moins tu soutiens le groupe et tu achètes un beau produit. Parce qu'un t-shirt, honnêtement, tu mets toujours les mêmes. Oui. Tu mets toujours les 10 mêmes.
Bah oui, parce que quand tu les là, tu les remets au-dessus de la piste. C'est quand celui-là.
Moi, je vois,
quand
pile,
quand on les relave, ils sont là. Et puis les 50, les 50 suites, tu les mets jamais.
Gars, je mets même pour des ça, des fois, t'es, tu les échanges ouais. avec les groupes, je t'échange un t-shirt, tu peux le vinyle, s'il te plaît. Ok, d'accord.
Ouais, voilà.
Les vinyles pas écoutés, Corentin en avait fait. On avait parlé. Non, c'est...
Regarde avec ça. Maintenant, t'as une enceinte.
Oui, tu écoutes la musique.
Tu prends 10 heures, le forfait 10 heures, 10 balles par mois.
Ou même, en fait.
Je sais plus quel pourcentage c'était.
De vinyle pas écouté.
Le pourcentage de vinyle vendu, jamais écouté.
Bah moi, franchement, bah moi, je suis le premier.
Écoute, je vais te faire une petite anecdote qu'on a, joué il n'y a pas longtemps. Il y a un jeune qui est venu acheter le vinyle et le CD. Et il voulait une dédicace. Alors je lui dis, bah, le vinyle, je l'ouvre.
Non.
Bah, je dis, attends. Non, je n'écouterai pas.
C'est l'objet, en fait. Il achète l'objet.
Il achète l'objet. Il dit, j'écouterai le CD. Ou alors j'écouterai sur Deezer parce qu'il m'avait demandé en même temps si on était sur Deezer. Bah ouais, on y est. Et en fin de compte, c'est, comme tu dis, c'est l'objet. Le vinyle, il sera jamais ouvert, il ouvrira jamais l'intérieur du truc.
Mais même à l'époque, ton père.
C'est tout, hein.
Ton
c'est
père, fou. Il achetait ses vinyles en double.
Ouais. Oui, j'ai connu des gars comme ça qui achetaient en double.
Donc il en écoutait un
et il y gardait l'autre.
C'est ça, côté collector.
Ben, c'est comme les fans de jeux vidéo. Hein. Ils achètent les jeux vidéo, ils gardent la boîte, ils gardent l'emballage, ils gardent le plastique. Ouais. Parce qu'après, quand ils revendent ça, ça coûte un bras. Les premiers jeux vidéo comme Quake, Doom, ceux qui ont encore les boîtes et tout ça. Parce que je sais que mon fils, c'est un geek infini. Et ceux-là, ils ont de l'or chez eux. Hein. C'est ouais, encore plus cher qu'un Petrus. Un Petrus 1977.
Ou avec, je peux faire une sangria. J'ai mis un truc comme ça, le mec. Le mec il met 15 bouteilles.
On a fait au moins une heure d'interview. Hein.
Excuse-nous.
On n'a pas dépassé un peu là. Ouais. On va l'avoir à couper. Hein, parce qu'on bah, a
finalement,
parlé.
En fait, tu vas pouvoir faire plein d'interviews.
Il faut jamais interviewer Mortuary en interview. Hein, c'est pas possible.
Finalement. On va passer la journée ensemble. Hein, jusqu'à ce que vous montiez sur scène.
Voilà, c'est ça.
En tout cas, avec plaisir.
C'était vraiment très sympa parce que ça permet de bien échanger.
Ouais. Attends, on a pas fini de poser ces questions, laquelle est la première question ?
C'est la première question. Deuxième question. Il est 17h30, nous commençons la deuxième question. Après on joue à 21h.
Le festival est terminé en fait.
On est dans le noir.
En train de passer une bouteille. Alors j'attaque la troisième question. Ouais.
Non, bah, on est déjà sur place pour l'année prochaine. Hein.
Voilà. On est à notre 10e boîte de bonbons, j'ai mal au ventre.
Crise de foie.
J'ai crise de foie.
On vous souhaite un excellent concert.
Bah, merci à vous, Lucas, c'était vous. Sympa.
Et bah. Puis donc, c'était bien Culture Métal. Oui, c'est ça.
Oui. Et c'était bien Mortuary.
On était bien Mortuary. Ça a été un réel plaisir de changer avec vous. Franchement,
c'est bien. Le plaisir a été partagé.
Et puis, on s'en retrouvera tout à l'heure.
Oui,
boire une concert vous plaise.
Boire une bière.
Ouais, bien sûr, avec plaisir, on fera un petit débrief ensemble.
Voilà.
Autour d'une bière, avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Prenez soin de vous.
47 minutes quand même.
Ouais. On discute.